nous recevons Xavier Le Pichon. Xavier Le Pichon est né en 1937 à Quy Nhon, au Vietnam. Il est ingénieur de géophysique, il est docteur en sciences physiques. Il est professeur au Collège de France dans la chaire de géodynamique depuis 1986. Et il a été directeur du laboratoire de géologie de l'ENS entre 1984 et janvier 2000. Il est spécialiste de la tectonique des plaques. Il est membre fondateur de l'Academia Europea. Il est membre de l'Académie des sciences et membre associé de la National Academy of Science des États-Unis. En 1990, il a reçu le prix du Japon et en 1991, la médaille Wollaston de la Geological Society, parmi d'autres prix. Et parmi ses publications, outre de nombreux articles qu'il a publiés dans les revues spécialisées, je mentionnerai les ouvrages suivants. En 1973, avec Franchetot et Bonin, il a fait paraître chez Elsevier Plate Tectonites. En 1976, avec Poteau, il a fait paraître Le fond des océans aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. En 1976, avec Riffaut, il a fait paraître Expedition Famous à 3000 mètres sous l'Atlantique, paru aux éditions Albin Michel. En 1986, Keiko, Voyage aux extrémités de la mer, paru chez Odile Jacob, Le Seuil. En 1997, il a fait paraître Aux racines de l'homme, de la mort à l'amour, aux presses de la Renaissance. Et enfin, en 1999, avec Tang Yi-ji, il a fait paraître La mort chez Desclés de Brouwer. Xavier Le Pichon, je vous cède la parole maintenant pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Je suis très heureux de participer à cette aventure extraordinaire de l'Université de tous les savoirs. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui a profondément bouleversé les sciences de la Terre pendant la période des années 60, et c'est quelque chose qui est en cours de transformation, qui continue à se développer et qui est ce qu'on a appelé quelquefois, parce que les Français aiment bien le mot révolution, la révolution de la tectonique des plaques. Ce nouveau modèle mobiliste de la Terre. Et j'en parlerai d'un point de vue personnel parce que j'ai eu la chance de participer, d'être un des acteurs de la mise en place de cette nouvelle théorie. Alors je commencerai avec cette figure qui montre le fond des océans vu à partir d'un satellite. Vous savez qu'en fait, ce que fait le satellite, ce n'est pas d'imager directement le fond des océans, mais il mesure la topographie de la surface de la mer. C'est des variations de quelques mètres, quelques centimètres à quelques mètres, qui, du fait de la pesanteur terrestre, sont produites par les masses qui sont au fond de la mer. C'est-à-dire un volcan va produire une petite bosse, une fosse va produire un trou. Et on peut, de cette manière, avoir une vision très belle et spectaculaire obtenue à partir de l'espace en quelques mois, en général, moins de quelques mois. Et cette image est toujours en train de s'améliorer à l'heure actuelle. Alors, pourquoi je commence avec ça? Parce que lorsque j'ai commencé ma carrière en 1959, eh bien, on ne connaissait quasiment rien du fond des océans. Et c'est le premier élément que je mettrai en avant, c'est le fait que nous avons commencé à comprendre les continents à partir du moment où nous sommes intéressés aux océans. On ne pouvait pas comprendre la Terre tant qu'on ignorait les deux tiers immergés. Et à cette époque, on les ignorait tellement que ce qui est le plus spectaculaire ici, qui est cette espèce de serpent qui suit au milieu des mers qu'on appelle la dorsale médio-océanique, une structure qui fait 50 000 km de long, était totalement inconnue à cette époque. On n'en connaissait qu'un petit bout dans l'océan Atlantique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je voudrais introduire là l'image la photo de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, mais qui a aussi beaucoup marqué cette révolution des sciences de la Terre, qui est Maurice Ewing. À cette époque, il y avait un certain nombre de scientifiques américains qui avaient participé pendant la guerre à des opérations de défense avec la marine américaine, qui étaient restés proches de la marine et qui avaient obtenu de la marine des moyens pour démarrer une exploration moderne du fond des océans. Et au fond, c'est à eux, grâce à cette alliance entre la marine américaine et quelques chercheurs du type de celui-là, qui était un réel pionnier, qu'on a pu commencer à faire la découverte de ce monde étrange qui ne ressemblait en rien au continent et qui a beaucoup interpellé. Parce que quand on a commencé, on pensait que le fond des océans était aussi ancien que la Terre, c'est-à-dire de l'ordre que les continents, en tout cas, de l'ordre de 3 à 4 milliards d'années, et que donc on allait y trouver d'énormes quantités de sédiments, de produits de l'érosion des continents, dans lesquels on trouverait les archives de toute l'histoire de la Terre. Et le grand paradoxe qui est progressivement apparu, que je vais développer un petit peu, c'est qu'on s'est aperçu que le fond des océans contenait pas grand-chose. Pas beaucoup de produits d'érosion, qui semblaient très jeunes et qui semblaient totalement différents de ce qu'on voyait sur les continents. Alors ça posait une énorme question. Comment peut-on avoir des continents qui font en moyenne 2 à 3 milliards d'années et à côté des océans qui ont l'air très jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été la question qui se posait avec beaucoup d'acuité et que nous avons dû résoudre pendant ces années 60. Alors la manière dont ceci se résolvait, c'était en travaillant avec des bateaux qui faisaient le tour de la Terre. Et voilà le bateau sur lequel j'ai fait mon premier tour du monde en 1959, c'est le Vima, c'est un magnifique trois-mâts goélette que Maurice Ewing avait racheté à un riche armateur et qui faisait le tour de la Terre tous les ans. Tous les ans, il partait pour 11 mois à la mer et il faisait le tour de la Terre. Et lorsque je suis arrivé au Lamont avec une bourse Fulbright en 1959, il m'a dit « Tu veux comprendre la Terre ? Eh bien, il faut aller sur les océans. C'est pas à l'université que tu vas apprendre ça. Le bateau part demain, tu montes à bord et c'est bon. » Donc, je suis parti pour mon tour du monde sur ce bateau et ça a été mon début. Et je voudrais vous en parler un petit peu parce qu'il permet de bien montrer, et avant ça, je vous montre à quoi je ressemblais à l'époque. Je n'oserais pas dire que j'ai changé, mais quand même, un petit peu. Voilà. Alors, pour bien comprendre, il faut... ceci va nous aider à comprendre quelle est l'étape qu'ont franchi les sciences de la Terre à cette époque. Voyez-vous, nous avions... Vous voyez ici l'Afrique et autour... Toujours par cette image qui est vue du satellite, vous voyez ce qu'on appelle la dorsale, ce trait qui tourne autour, avec le jaune, c'est la partie la moins profonde, et puis les grandes fractures qui la traversent. À l'époque, on savait qu'elle existait, parce que les levées allemands avaient montré, avant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y avait une telle chaîne dans l'Atlantique, et en particulier en Nord-Atlantique, puis Atlantique Sud, et Boris Ewing, avec un de ses adjoints et élèves, Bruce Hazen, avait remarqué qu'il y avait de la sismicité, des tremblements de terre, qui suivaient l'axe de cette dorsale. Vous voyez ici ces tout petits points dans l'Atlantique, sur la droite, vous voyez, ces petits points marquent une ligne sismique continue qui était au milieu des océans. Donc il y avait une coïncidence entre cette ligne sismique et l'axe de cette nouvelle structure, énorme structure qu'on avait découvert là. Et comme à cette époque, on s'intéressait beaucoup à la détection des explosions atomiques, voyez, deuxième association avec les sciences liées aux militaires, on avait développé un réseau de stations sismologiques très importants à la surface du globe, qui étaient beaucoup plus précis et qui faisaient apparaître qu'effectivement, il y avait cette ceinture étroite qui se trouvait non seulement dans l'Atlantique, mais vous voyez, qui suit le milieu de l'océan Indien et qui passe dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce que c'était que cette ceinture? L'hypothèse que font Ewing et Hazen, c'est de dire, eh bien, cette ceinture sismique qui est associée à l'axe de cette dorsale, comme on l'appelait dans l'Atlantique, bien partout, elle est associée à l'axe d'une dorsale. C'est la structure la plus importante à la surface de notre globe. Et pour le vérifier, il nous envoyait zigzaguer avec le Vima sur cet axe, au sud de l'Afrique, et puis ensuite dans l'océan Indien et dans le Pacifique, pour vérifier si on trouvait bien cette structure et en particulier une vallée qui entaillait cette structure et qu'ils avaient appelé le rift, la déchirure. En anglais, ça veut dire déchirure. Et donc, nous avions à zigzaguer là-dessus, et à chaque fois qu'on traversait à l'endroit indiqué par les séismes, on devait envoyer un télégramme au Lamonde, c'était le laboratoire de Maurice Ewing, pour lui dire « on l'a trouvé ». Vous voyez là la nouvelle approche qui est devenue maintenant tout à fait standard, qui est une approche tout à fait normale dans les sciences expérimentales, mais qui existait peu dans les sciences naturelles, qui est cette approche d'un modèle qu'on va tester, vérifier, et qui progressivement va nous permettre d'arriver à un modèle plus élaboré et de comprendre progressivement la Terre. Donc voilà ce qu'on faisait sur ce bateau, et je dois dire que pour moi c'était une grande chance, c'était très remarquable de pouvoir le faire. Mais pour vous dire l'état de connaissances extrêmement faible que nous avions sur cette région, alors on ne le voit pas très très bien ici, mais vous voyez ça, c'est un agrandissement de cette carte vue par satellite de ce qui apparaît comme la topographie du Vents et Océans. Et au milieu de ce bassin, l'Afrique est à droite, au milieu de ce bassin qui est vous voyez une petite, je n'ai rien pour l'indiquer, mais ah voilà, vous voyez ici un espèce de petit bouton, de furoncle, c'est en fait un mont sous-marin qui venait de 5000 mètres de profondeur jusqu'à 15 mètres de la surface. Et nous l'avons trouvé alors que nous étions, on traversait là-dedans, c'est justement en 1959, il s'appelle depuis le mont Vima, j'étais de quart, moi personnellement sondeur, et on voyait les figures du sondeur qui montaient, ça peut être à 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, et puis finalement, on prévient le capitaine, attention, on arrive sur quelque chose qui a l'air de venir en surface. On dit, mais il n'y a rien du tout sur les cartes. Et ça montait à 15 mètres de profondeur. Oui. C'est quelque chose d'assez spectaculaire et qui montre le peu de connaissances que nous avions des fonds des océans, puisque c'est en fait un très grand volcan, qui pouvait être un problème pour les bateaux ayant une très grande jauge ou pour les sous-marins. D'ailleurs, petite histoire, mais lorsque nous sommes arrivés au cap peu après, nous l'avons indiqué, et là, les pêcheurs se sont précipités. Ils ont raflé toutes les langoustes. Et en 2 ans, il n'y avait plus une seule langouste sur cet endroit-là. Ce qui montre aussi l'impact de l'homme dans ce domaine. Donc voilà, vous voyez cette première chose qui vous permet de comprendre comment cette exploration du fond des océans faisait jaillir cette nouvelle structure énorme, 50 000 km de long, avec une activité sismique liée à la surface. Et puis on s'apercevait en même temps que le fond des océans semblait très jeune. On n'arrive pas à trouver de choses anciennes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors la clé a été fournie par encore un autre développement parallèle qui a été le développement de la découverte des inversions du champ magnétique terrestre. Par l'étude de l'aimantation dite rémanente, c'est-à-dire l'aimantation fossilisée dans les roches du champ magnétique terrestre passé, on arrivait à montrer, et ça avait été montré à cette époque-là, que l'époque actuelle, vous voyez, on part de l'époque actuelle et on descend vers le bas, l'époque actuelle avait une aimantation dite normale, parce que c'est la nôtre, on trouve toujours que ceux qui sont comme nous, ils sont normaux, donc ça c'est l'époque normale, et puis l'époque avant, c'était exactement inversé, c'était ce qu'on appelle maintenant la période Matsuyama, et puis etc. Donc on avait avec une, vous voyez l'échelle est en millions d'années, donc avec une fréquence de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années, positif, négatif, positif, négatif. Alors si ceci est vrai, il y avait une manière de tester l'ouverture du fond des océans. Parce que si le fond des océans était nouveau, et c'est une hypothèse qui avait été avancée par un chercheur de Princeton génial, qui s'appelait Harry Hess, eh bien il y avait une manière simple de le faire, puisqu'on constatait qu'il y avait très peu de sédiments, apparemment la chaîne était très récente et il y avait une activité à l'axe, et puis quand on s'en éloignait, il y avait de plus en plus de sédiments, on avait l'impression que c'était de plus en plus ancien. Alors il avait inventé le modèle du tapis roulant, le tapis roulant qui remonte ici et s'écarte de part et d'autre en créant des nouveaux fonds océaniques. Donc la matière chaude qui monte, qui arrive là, et puis elle s'en va par là et par là, en se séparant en deux. Et dans ce cas-là, il y avait un test qui était simple, c'est que puisque c'était de la matière volcanique chaude, lorsqu'elle se refroidissait dans le champ magnétique terrestre de l'époque, elle s'aimantait de manière permanente, et on devait donc trouver sur le fond des océans une série de lignes parallèles qui étaient positif pour la dernière, négatif, positif, négatif, une aimantation, vous voyez, qui passait alternativement. Et ça, on l'a découvert. Et ça a été une époque tout à fait extraordinaire. On a enfin trouvé un endroit dans l'océan Pacifique Sud où le taux d'ouverture était très grand et la direction du champ magnétique adéquate par rapport au truc. Et à ce moment-là, vous aviez ce profil qui est un profil de ce qu'on appelle les anomalies magnétiques, c'est-à-dire ce qui est produit par l'aimantation des roches sur le fond, qui faisait 1000 km de long. Et vous voyez ici, voilà le profil normal, et voilà le profil inversé dans un miroir. Vous voyez qu'il y avait cette symétrie extraordinaire de part et d'autre, on a appelé ça le profil magique, qui ne pouvait s'expliquer que par un modèle de ce type. Comment pouvait-on autrement expliquer une symétrie aussi extraordinaire dans les moindres détails et qui permettait de retrouver la succession dans le temps des inversions du champ magnétique. Donc là, on avait la certitude que le fond des océans s'ouvrait, et on pouvait mesurer la vitesse d'ouverture, c'était simplement, si vous voulez, la longueur du profil divisée par le temps, l'échelle de temps que nous donnaient les inversions. Et on constatait qu'il s'ouvrait à des vitesses de plusieurs centimètres par an. Dans ce coin-là, c'était à peu près 6 centimètres par an. Donc vous aviez quelque chose qui nous disait... Voilà comment se met en place le fond des océans. C'est bien un tapis roulant qui vient à la surface et qui s'écarte de part et d'autre. Alors très vite, à partir de là, étant donné que grâce à des gens comme Maurice Ewing, et surtout Maurice Ewing, on avait accumulé des énormes quantités de données dans tous les océans, eh bien on pouvait traduire cette carte en âge du fond des océans. Et vous avez ici cette carte, voyez, qui vous donne l'âge du fond des océans. Les âges sont donnés en milliers d'années, donc ça va jusqu'à 180 millions d'années ici, voyez. Vous avez des parties qui sont très anciennes sur le bord de l'Atlantique et dans le Pacifique. Et puis toujours, à l'axe des dorsales, ce petit trait blanc, vous avez un âge qui est zéro. Vous voyez, vous augmentez progressivement dans le bleu, puis le jaune, puis le vert. Donc vous avez cette symétrie extraordinaire par rapport à l'axe, et puis vous arrivez à un âge maximum de 180 millions d'années, et après plus rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, il y avait deux possibilités. Ou bien la Terre était en expansion très rapide, elle avait brusquement décidé il y a 180 millions d'années de se mettre à gonfler comme un ballon dans lequel on souffle, hein. Elle aurait doublé de volume depuis cette époque-là, mais physiquement, c'était absurde, et ça ne tenait pas sur le plan de la physique. Il aurait fallu changer la constante gravitationnelle, mais on arrivait à des taux tout à fait absurdes, seulement pour les 200 derniers millions d'années. Il restait donc l'autre hypothèse, c'est que le tapis roulant, non seulement il avait une montée, mais il avait une descente. Et que le fond des océans qui était fabriqué ici redescendait le long des fosses à une vitesse qui était comparable, et de telle manière qu'en gros, vous créez à tout moment autant de surface de nouvelles croûtes océaniques que vous en faites disparaître dans les grandes fosses qui sont sur le pourtour des océans. Alors ceci posait des problèmes qui ne sont pas simples. Pourquoi ils ne sont pas simples? C'est parce que vous voyez que par exemple autour de l'Afrique, vous avez une dorsale tout autour, mais vous n'avez pas, et la même chose pour l'Antarctique, mais vous n'avez pas de fosse de subduction. Alors les gens disaient, oui mais d'accord, ça vient ici, mais où est-ce que ça s'enfonce sous l'Afrique? Et vous voyez, ce qui imposait de passer cette fois-ci encore à un concept nouveau, qui a été le concept de la tectonique des plaques. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'idée était simple, c'était de présenter, vous voyez, cet ensemble de la Terre comme un ensemble de plaques rigides, de systèmes rigides, qui étaient en déplacement tous les uns par rapport aux autres et qui avaient des interactions sur leur bordure. Et les interactions, ça pouvait être de l'écartement, on produisait de la nouvelle surface dans les rifts au milieu des océans. Ça pouvait être un rapprochement, on descendait dans les fosses et la croûte, ce qu'on appelait la lithosphère, l'ensemble qui s'est formé, redescendait dans le manteau et perdait son identité. Et puis on pouvait aussi avoir des glissements, comme par exemple ici, le long de la faille de San Andreas en Californie, ni création de surface, ni destruction de surface. Et quelle était la condition qu'il fallait imposer? C'est que cet ensemble de plaques rigides, vous aviez à tout moment égalité de création de surface par rapport à égalité de destruction de surface. En disant que la Terre ne change pas de volume, que c'est une sphère, hein, eh bien, ça devient un exercice mathématique relativement simple. Et c'est cet exercice de mathématiques que j'ai présenté dans un article en 1968. Vous voyez, c'est le fac-similé de la figure de l'article. C'est-à-dire que, connaissant les ouvertures dans les océans, connaissant les limites des plaques, eh bien, je calculais par fermeture la quantité de mouvement dans les fosses. Par exemple, je montrais qu'au niveau du Japon, on avait un raccourcissement dans cette direction, c'est-à-dire à peu près est-ouest, de 8 cm par an, où je montrais que toute la chaîne alpine himalayenne produisait du raccourcissement qui allait de 33 mm par an à près de 50 mm par an dans l'Himalaya. Donc on pouvait avoir un modèle simple qui pouvait être testé en le comparant à la sismicité. Alors c'est le modèle, c'est devenu le modèle de la tectonique des plaques. Donc je reviens ici au transparent. C'est maintenant une version beaucoup plus récente, mais du même système, dans lequel les vecteurs vous donnent les directions d'ouverture. Et puis, vous avez les directions de rapprochement. Simplement, ce sur quoi je veux insister, c'est simplement le fait que ce modèle était entièrement basé sur des données qui venaient de l'océan. Vous voyez qu'ici, ces données, ce sont les points qu'on représente et qui vont servir à calculer le modèle global. Ces données sont entièrement océaniques, elles sont entièrement sous l'eau, parce que ce sont les seuls endroits où nous pouvons mesurer l'ouverture en supposant que cette ouverture est constante au cours du temps. Puisque pour arriver à voir la vitesse, on se servait des inversions du champ magnétique, il fallait faire la moyenne de la vitesse sur environ, à cette époque-là, 10 millions d'années, maintenant on l'a fait sur 3,5 millions d'années. Donc on supposait que les plaques bougeaient de manière tout à fait uniforme, et que grâce à ça, on pouvait avoir le mouvement instantané, on passait de centaines de kilomètres par million d'années à quelques centimètres par an. Et on le testait en le comparant au séisme, en voyant dans quelle direction se faisait le mouvement, est-ce que c'était la bonne direction, est-ce que ça marchait, et ça marchait. Donc on avait déjà une indication qu'apparemment le mouvement était relativement permanent et qu'on pouvait obtenir quelque chose, mais en se servant uniquement des données océaniques. Et tout ce qui était obtenu, par exemple, dans la chaîne alpino-himalayenne, était obtenu par calcul, en disant la Terre est sphérique, les plaques sont rigides, et j'obtiens cette vitesse de cette manière-là. Donc, vous voyez, voilà le modèle auquel on était arrivé, qui, naturellement, bouleversa les concepts. Et ce modèle permettait en même temps de remonter dans le passé, ça c'est l'autre chose, de manière quantitative. Puisqu'on obtenait une carte du fond, de l'âge du fond des océans, c'était relativement simple de remonter en arrière, par exemple ici pour l'Atlantique, en retirant à chaque fois la quantité de croûte océanique qui correspondait à la dernière période. Et en supposant que c'est rigide de part et d'autre, sur la Terre, vous savez peut-être pas, mais ceux qui je vous l'apprends, qu'il s'agit de rotation, c'est toujours des rotations pour amener un ensemble rigide d'un point à un autre. Donc, en faisant ces rotations, on refermait progressivement l'Atlantique et on obtenait le fameux modèle de Wegener, qui était le modèle qui avait été proposé sur des bases essentiellement paléogéographiques, essentiellement le fait que vous aviez des ajustements des continents et d'autre part que ça permettait de retrouver les distributions de plantes et d'animaux de l'époque de manière extrêmement cohérente. Mais ce modèle qui avait été abandonné parce qu'on ne voyait pas comment il fonctionnait et qui conduisait à des aspects tels que l'avait proposé Wegener un peu absurdes sur la structure de la Terre, se trouvait vérifié parce qu'on avait enfin découvert la clé qui était ce renouvellement du fond des fonds océaniques. Renouvellement qui procède de telle manière qu'en gros, l'âge moyen du fond des océans, c'est 60 millions d'années. Donc, c'est un maximum de 180 millions d'années. En gros, c'est la même chose que l'homme multiplié par un million. 100 millions au lieu de 100 ans. Voilà. Donc ça permet d'obtenir un fond des océans qui et progressivement de plus en plus âgé. En devenant plus âgé, il se refroidit, il s'alourdit et il finit par replonger à l'intérieur de la Terre. Et c'est cette mobilité du fond des océans qui entraîne la mobilité des continents et amène la réjuvénation continuelle des continents. Donc voilà où on en était. Ceci, naturellement, impliquait, et on s'en rend bien compte maintenant, que l'intérieur de la Terre était éminemment mobile, que la Terre avait son propre moteur interne. Et on peut, voici un exemple, c'est un calcul de Yannick Ricard, qui était dans notre laboratoire, qui est maintenant à Lyon, qui vous montre sur une section équatoriale la distribution des vitesses qui est impliquée par ces mouvements à la surface, en tenant compte d'un certain nombre d'informations que nous avons sur l'intérieur de la Terre. Alors vous avez le noyau ici, et puis vous voyez les mouvements. Vous voyez que ceci implique qu'à l'intérieur de la Terre, vous avez une très grande quantité de mouvement, de matière qui se déplace. Et cette matière qui se déplace, en fait, pourquoi ? C'est parce que la Terre est une machine thermique. La Terre produit de la chaleur. Elle produit trop de chaleur pour que ça s'en aille uniquement par conductivité, c'est-à-dire simplement par transmission de l'agitation des atomes. Il faut le déplacement de la matière lui-même. C'est ce qu'on appelle la convection. C'est ce qui se passe quand vous passez de la soupe qui se contente de progressivement se réchauffer jusqu'au moment où elle commence à s'agiter parce qu'elle a besoin d'amener la chaleur du fond de la casserole jusqu'à la surface par un mouvement qui est beaucoup plus efficace, qui est le mouvement de la matière, non plus seulement le mouvement de l'agitation des molécules. Donc voilà ce que ça implique. Alors ceci a beaucoup d'implications très importantes sur lesquelles on travaille encore beaucoup et sur lesquelles il y a beaucoup d'hésitation à l'heure actuelle. Je mentionne ici sur cette coupe qui est due à Vincent Courtillot, qui est une coupe tout à fait hypothétique, mais qui permet de montrer que vous avez non seulement ces mouvements dus aux plaques en surface qui plongent et rentrent dans le manteau supérieur, mais qu'en plus, vous avez des mouvements qu'on appelle par plume, c'est le deuxième type de convection, avec déstabilisation à la surface peut-être du noyau et remontée de ces plumes jusqu'en surface pour faire ce qu'on appelle des points chauds. Donc l'essentiel, je ne veux pas développer ça, mais simplement vous rappeler que ceci montrait que nous avions affaire à une Terre extrêmement active, mobile, qui fonctionnait, comme le montre ce modèle trois dimensions, de manière un peu turbulente, et qu'à la surface, la ventilation de la chaleur nécessaire se produisait essentiellement sous le fond des océans, et qu'en conséquence, les continents se déplaçaient continuellement, parce que les continents qui sont comme des grandes plaques isolantes ne peuvent pas rester toujours au même endroit, sinon vous accumulez la chaleur dessous, et en fin de compte, ils vont être cassés en deux, c'est ce qui se passe pour le rift africain, etc. C'est ce qui s'est passé pour l'ensemble Afrique, Europe, Amérique, il y a de l'ordre de 150 millions d'années. Nous avions donc découvert que l'activité de la Terre était liée essentiellement à l'activité du fond des océans et que cette activité du fond des océans se concentrait soit le long de lignes d'écartement, les rifts, soit le long de lignes de rapprochement, les grandes fosses, dans lesquelles il y avait à chaque fois une grosse activité sismique. Alors ceci était un point très important parce que ça peut vous paraître étonnant, mais lorsque j'ai commencé ma carrière, les géologues qui parlaient de la formation des chaînes de montagne étaient totalement dissociés de l'étude des tremblements de terre. Les tremblements de terre apparaissaient comme quelque chose qui n'avait rien à voir avec la tectonique, comme on disait, la formation des chaînes de montagne. Et c'est avec la tectonique des plaques qu'on s'est aperçu que l'activité sismique, c'était simplement la représentation au jour le jour de l'activité qui construisait les reliefs terrestres et qui faisait les chaînes de montagne. Et que l'étude des tremblements de terre était une manière privilégiée de comprendre comment la Terre était progressivement déformée. Donc, il fallait s'intéresser à ce qu'on appelait ces lignes, le rift, mais qui se trouvait sous plusieurs milliers de mètres d'eau, et comprendre comment fonctionnaient ces rifts. Alors, c'est une opération que nous avons lancée en utilisant les submersibles qui devenaient disponibles à l'époque et qui permettraient de passer, d'avoir une résolution bien meilleure sur le fond que celle qu'on avait à partir de la surface. Vous avez ici le submersible Nautile, qui est un submersible d'Ifremer qui peut descendre à 6000 mètres. On ne l'a pas utilisé dans cette première opération qui avait lieu en 1973 et 1974, qu'on avait appelée l'opération FAMOUS, hein, French American Mid-Ocean Undersea Survey. On était très fiers du nom qu'on avait trouvé, mais qui nous a permis d'étudier le rift. Je le mentionne simplement, sans entrer dans le détail, parce que c'était une étape importante de commencer à étudier dans le détail les frontières. La suivante. Alors, vous voyez... Non, c'était la précédente, voilà. Vous voyez ici comment est l'intérieur du Nautile, dans ce petit schéma. Vous avez un scientifique qui observe dans un hublot, vous avez un pilote, puis vous avez un autre pilote par derrière. Vous voyez qu'on a des possibilités de préhension avec des bras articulés, etc. Bon, la suivante. J'ai eu la chance d'être le premier scientifique à descendre au fond du rift au milieu de l'Atlantique en 1973. Et vous voyez, ce qu'on a découvert immédiatement, c'était ces fonds très, très récents dans lesquels vous avez les gouttelettes de lave, ce qu'on appelle les pilots, les laves en oreiller, qui se sont formées sur les pentes et qui ont gelé rapidement à l'extérieur, se sont consolidées rapidement à l'extérieur, alors que l'intérieur continuait à couler. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, je crois que j'ai ceci. Donc, je reviens sur le transparent. Alors, ceci, on étudiait, vous voyez, dans cette section qui vous montre la fabrication des fonds océaniques et puis leur refroidissement progressif et puis finalement leur plongement dans les fosses. La deuxième région, ce sont les fosses où se produisent l'essentiel de l'activité sismique à la surface de la Terre. Et ce que nous avions décidé très vite, c'est d'aller voir comment fonctionnaient ces fosses. J'en dis deux mots là aussi, si je peux revenir sur les diapositives. Nous décidions de travailler dans les fosses au large du Japon, et un des traceurs que nous avons découvert assez vite, c'est une activité biologique des colonies de bivalves, de clams, qui vivent en fait de l'énergie venue de l'intérieur par l'intermédiaire de bactéries et qui nous donnaient les sorties de fluides qui sont liées à l'activité de la fosse. Et nous avions tracé ça, et ce que vous voyez là, c'est des pauvres bivalves pris dans cet appareil de prélèvement, et il y en a une qui a été écrasée, c'est le sang du bivalve qui s'en va là. Donc, vous voyez là aussi, quand l'homme intervient, il fait quelques dégâts pour essayer de comprendre. Donc là, un très grand travail qui est en cours de compréhension des fosses, sur lequel j'insisterai pas, mais pour vous montrer que là aussi, il fallait traduire ce qui était un schéma tectonique simple, conçu en laboratoire, le confronter aux faits et essayer de comprendre sur une zone qui faisait 100 km de large comment se distribuait la déformation. La suivante. Ceci ne se passait pas sans problème, et vous avez ici un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés. Et le submersible est derrière, il y avait un vent de 100 km/h, on n'avait pas eu le temps de le ramener, et nous avions 3 personnes dans le submersible dont on n'était pas du tout sûr qu'on pourrait les garder. Nous les avons traînés pendant une journée entière en pensant que nous allions les perdre. Et c'était un des moments les plus difficiles de ma carrière. Je n'étais pas moi-même dans le submersible. Mais ça vous montre que ce travail en mer reste un travail extrêmement difficile. Alors j'en viens à la dernière partie de mon exposé, qui est la transition de cette tectonique des plaques qui est gouvernée par l'étude des océans à une tectonique des plaques qui de plus en plus obtient ses informations de l'espace. Et ça, c'est un développement fabuleux que nous sommes en train de vivre et qui a commencé, disons, en 86. Alors, vous avez tous entendu parler du Global Positioning System, le GPS, tout le monde utilise ça maintenant. Chacun peut en avoir pour 1000 francs et vous aurez pour ça une précision de positionnement d'une dizaine de mètres maintenant, puisque les États-Unis, de manière très adroite, et je pense sur le plan commercial, mais très utile pour nous, viennent de décider de libérer le brouillage qu'ils faisaient et qui réduisait la précision. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, vous avez un système maintenant, c'est de 24 satellites qui sont en permanence autour de la Terre et qui vous permettent de vous positionner. Et nous savons nous positionner à 10 mètres près, ça c'est facile, mais nous savons aussi nous positionner à 2 à 3 millimètres près en faisant du relatif et en prenant ça en faisant des mesures plus sophistiquées sur 2 ou 3 jours. Alors vous voyez tout de suite ce que ça représente. Ça veut dire que si je peux mesurer une position sur la Terre à 2 ou 3 millimètres près, eh bien, le mouvement des plaques devient quelque chose qui est tout à fait mesurable. On peut mesurer ces plaques. Et on peut enfin répondre à cette grande question, est-ce que les plaques sont vraiment des plaques qui bougent de manière uniforme, ou est-ce que la moyenne sur 3 millions d'années est une approximation, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le détail chaque jour. Vous voyez, c'était une grande question. Et à ce moment-là, de dire que le fait qu'on ait des séismes qui se produisent tous les 100-150 ans est simplement lié à l'élasticité de la plaque, c'est-à-dire que sur la bordure, les deux morceaux de plaque que vous rapprochez se déforment élastiquement jusqu'à ce que vous dépassiez le coefficient de friction le long du plan de ce qu'on appelle le plan de faille, du plan de frottement, et d'un seul coup, vous restituez ce mouvement. Mais ça n'affecte qu'une région qui est quelques dizaines de kilomètres de part et d'autre de la zone de déformation. Et sinon, la plaque avance inexorablement à sa vitesse constante. Donc, ça a été une des premières choses qui a été faite. Je dois vous dire que lorsqu'en 86, on a publié les premiers résultats, à l'époque, c'était avec une autre technique que je ne développerai pas ici, qu'on appelle le VLBI, VL-Long Baseline Interférométrie, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose. On cherche à déterminer à partir de l'espace la position d'un point sur la Terre. Lorsque, pour la première fois, j'ai su qu'on avait mesuré que Hawaï se rapprochait à 8 cm par an de Tokyo, qui était ce que j'avais prédit 14 ans plus tôt quand j'avais fait mes calculs, mais en pensant que c'était une approximation, etc. Pour moi, ça a été un moment très fort, comparable à ce moment quand je me suis trouvé dans le rift et que j'ai pu voir pour la première fois ces fonds que personne, aucun autre humain n'avait vu. Vous voyez, c'est la joie de l'exploration scientifique. La joie de découvrir quelque chose de nouveau, et puis la joie intellectuelle de comprendre et de vérifier un modèle que vous avez mis sur les données et qui n'a pas été jusque-là vérifié. Puis là, nouvelles données qui viennent d'un autre domaine complètement, l'espace, et qui vous disent, ben oui, les plaques bougent, et elles bougent à une manière uniforme. Et voilà ce que vous avez ici sur ce petit graphique, qui est un graphique qui est dû à nos confrères, nos collègues de Toulouse, dans lequel ce que vous avez en échelle verticale, c'est ce qui est mesuré à partir de l'espace, les vitesses entre deux plaques mesurées à partir de l'espace, et là, c'est les vitesses entre deux plaques mesurées à partir de l'océan, d'après cette méthode qui moyenne sur 3,5 millions d'années. Donc ici, ce sont les vitesses sur 3,5 millions d'années mesuré par cette ouverture à l'axe des dorsales, etc., le modèle global. Et ici, la vitesse sur quelques années, mesurée de l'espace. Et si l'accord est parfait, eh bien, on doit avoir cette droite. Et vous voyez que les points sont tels que l'accord est bon à 99% et s'explique uniquement par les petites erreurs de mesure. Donc, l'accord est spectaculaire et vous montre que l'approximation qui était faite sur cette mesure, en supposant que les plaques étaient rigides, que la Terre gardait un volume constant, que le mouvement était permanent, eh bien, elle tient remarquablement bien. Alors, ceci est quelque chose de très, très important, parce que vous voyez que brusquement, vous inversez totalement la logique de la recherche. Il fallait aller au fond des océans pour mesurer le mouvement des plaques. Maintenant, on le mesure directement, mais uniquement sur les continents. On ne peut plus le mesurer au fond de l'eau, parce qu'il faut avoir un accès direct de visée de satellite. Ces mesures, on peut les faire en tout point, à tout moment. Donc on arrive à suivre dans le détail, non seulement les déplacements des grandes plaques, mais les déformations en bordure des plaques, et tout ce qui est dû au tremblement de terre, tout ce qui est dû au volcanisme. On voit cette déformation, on la suit, on la modélise, nous entrons dans un autre domaine. Vous voyez, la tectonique des plaques avait permis aux sismologues et aux tectoniciens, ceux qui étudient les séismes d'un côté, ceux qui utilisent des chaînes de montagnes de l'autre, de se réconcilier et d'apprendre à travailler ensemble. Et voilà qu'avec cette nouvelle approche, on permettait aux géodésiens qui travaillaient complètement de manière séparée, les géodésiens, c'est ceux qui étudient la forme de la Terre, les différentes choses de ce type, qui étudient aussi la capacité de comment on se positionne, comment on trouve la position exacte d'un point, brusquement, les géodésiens devait être intégré dans le groupe de travail. Et maintenant, pour comprendre la tectonique des plaques, il fallait des géodésiens, il fallait des sismologues, il fallait des tectoniciens qui tous apportent leur contribution à la compréhension de ce domaine. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je voudrais quand même dire quelques mots des développements, en particulier pour les séismes. Vous aurez un développement, je pense, sur les risques sismiques bientôt, mais je crois que c'est important de le voir ici. Voilà cette zone, n'est-ce pas, qui se trouve à l'est de l'Asie. Vous reconnaissez peut-être le Japon, la Corée, la Chine ici. Et toutes ces espèces de petits ballons, c'est les gros séismes qui se sont produits dans cette région. Qu'est-ce que vous avez dans cette région? C'est l'ensemble du Pacifique qui ici a atteint un âge de 140 à 160 millions d'années. Et ce Pacifique est en train de plonger dans la fosse ici et de disparaître à des vitesses, je vous l'ai dit, qui est de l'ordre de 8 cm par an. Vous avez ici un autre morceau, la mer des Philippines, qui plonge aussi là-dessous. C'est un système assez compliqué. Et ce système est naturellement responsable de la très grande activité sismique sur toute cette bordure, en particulier au Japon, et de la très grande activité volcanique. Alors, comment fonctionne le système? Je crois que c'est assez important d'essayer de le comprendre parce que nous avons des grands développements de la science dans ce domaine, et nous allons assister dans les 10 ans qui viennent à vraiment des avancées spectaculaires, je crois, dans ce domaine. Vous voyez ici, ça c'est un bateau foreur, vous voyez ici la plaque qui plonge sous le Japon, vous voyez, ça c'est le sommet de la plaque océanique, et puis ce qu'on appelle la croûte, l'ensemble léger qui forme les îles volcaniques, qui est au-dessus, et entre les deux est le plan de glissement, puisqu'il faut bien que ça glisse, puisque le domaine océanique plonge sous le domaine continental et finalement va descendre, on le suit, jusqu'à 700 km de profondeur et va faire perdre progressivement son identité en se réchauffant. Alors, sur la bordure, vous voyez, sur la limite entre les deux, c'est la zone de frottement. Cette zone de frottement, normalement, elle est bloquée parce que vous avez exactement comme vous marchez sur votre chaussure, vous savez que vous lui donnez une poussée tangentielle qui est significative, mais c'est bloqué par le frottement. Si vous avez une tache d'huile, vous apercevez immédiatement que vous pouvez donner une poussée tangentielle importante parce que hop, vous partez, hein, la limite de résistance par le frottement est perdue. Ben, c'est exactement la même chose ici. Le frottement, tant que le frottement tient et bloque la plaque, eh bien, vous allez avoir la plaque continue à avancer, mais tout le système se déforme élastiquement. Ceci tire vers le bas, hein, et déforme élastiquement ce système, et ça va se produire, voyez, pendant une période qui est de l'ordre d'une centaine d'années à 150 ans. Donc vous allez accumuler une déformation élastique qui va être de l'ordre de quelques mètres. Et puis vous dépassez la limite de résistance, exactement comme quand vous commencez à glisser avec votre pied. D'un seul coup, ça se met à glisser, et ça peut glisser très vite, je pense que vous avez fait cette expérience, et c'est le tremblement de terre. Brusquement, vous restituez la déformation élastique d'un seul coup. Et ceci va naturellement entraîner la propagation d'ondes élastiques un peu de la même manière, c'est une approximation un peu limite, mais de ce que vous lancez un caillou dans l'eau, et vous voyez les ondes qui se propagent. Donc vous avez à ce moment-là rupture, restitution de l'énergie élastique, et puis toute la déformation qui est restituée dans l'énergie du séisme, qui peut faire un séisme de magnitude 8 ou plus. Vous savez, ce sont des choses extrêmement importantes. Voyez d'ailleurs, et c'est un point qui est très important, c'est que tout se passe sous l'eau. Voyez, toute cette partie-là, c'est sous l'eau. Le continent, pour l'étudier, on est obligé d'avoir des informations sur le domaine océanique. Ça, c'est un gros problème, mais c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on se lance dans des grands programmes de forage qui vont aller traverser cette zone de frottement pour comprendre comment elle fonctionne, pour essayer de mieux comprendre comment on fabrique ce séisme et comment, en fin de compte, on fabrique la tectonique, c'est-à-dire les chaînes de montagnes. Il faut en revenir à la déformation élémentaire, et la déformation élémentaire, c'est celle qui est liée au séisme, à ce cycle sismique qui se produit avec à peu près 100-150 ans. Donc, nous travaillons beaucoup dans ce domaine, mais je vais vous montrer un développement étonnant, qui vous est montré avec cette carte du Japon. Et vous voyez tous ces petits bâtons ici, tous ces petits vecteurs, ce sont des vecteurs qui sont mesurés par 900 stations GPS, et maintenant il y en a 2000. Les Japonais ont 2000 stations GPS permanentes, et c'est vrai aussi maintenant en Californie, en beaucoup d'autres endroits, qui enregistrent en permanence la moindre déformation de quelques millimètres. Et ce que vous voyez ici, c'est sur un an, quelle est la déformation du Japon. Et vous voyez que tous ces petits vecteurs sont en gros est-ouest, et qu'ici ils sont très grands, c'est à peu près 3 cm par an, et quand vous arrivez à la côte de l'autre côté, de la mer du Japon, ils sont arrivés presque à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Japon, en permanence, est rétréci de manière latérale, se raccourcit de manière latérale de 3 cm par an. Alors vous me direz, si ça continue trop longtemps, on va faire une énorme chaîne de montagnes, mais ça ne continue pas très longtemps. Ça continue environ 100-150 ans. Et puis vous arrivez à la limite d'élasticité le long de la zone de subduction, en dessous, et d'un seul coup, paf, il va rebondir, mais non pas de 3 cm, bien sûr, mais de 3 cm multiplié par le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois, de 3 ou 4 mètres, et il va rebondir dans l'autre direction. Donc vous voyez que vous enregistrez là la déformation instantanée produite par ce phénomène permanent et qui progressivement a une part qui bien sûr est la part qui va dans le sismes qui est à peu près annulée à chaque fois, mais une part qui est accumulée dans une déformation permanente et qui crée le Japon. Donc c'est là que nous en sommes arrivés. Nous en sommes arrivés à ce stade où, à partir de méthodes très diverses, vous voyez, on se sert de la sismologie, on se sert de la tectonique, on se sert de la géodésie, on est obligé d'aller forer en mer, on doit se servir de l'espace pour suivre ça en permanence. Nous avons une vision quantitative de plus en plus précise de ces déformations, et nous pouvons comprendre, vous voyez, de manière très, très belle, dans le détail, comment se passe cette déformation, faire des modèles, et nous entrons maintenant dans la dernière étape, c'est d'associer à nos modèles des gens qui sont des mécaniciens, qui comprennent comment on fait pour déformer ce qu'on appelle la croûte et puis la partie lithosphérique en profondeur, arriver à des modèles qui vont reproduire cette déformation extrêmement détaillée de surface et nous permettre de donner une vision quantitative de cette déformation à partir d'une observation à l'échelle instantanée, à l'échelle de 3 millions d'années, et extrapolé par la géologie et la tectonique aux âges plus anciens. Donc nous entrons vraiment dans une nouvelle ère, dans une nouvelle vision de la Terre, qui est la prolongation de cette tectonique des plaques que nous avons découvert en allant plonger dans l'océan, mais qui maintenant se sert de plus en plus de ces techniques spatiales. Vous voyez que c'est encore de très beaux jours pour les jeunes chercheurs, et que c'est une étape peut-être aussi passionnante que celle que nous avons vécue il y a une trentaine d'années. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, monsieur. J'ai beaucoup apprécié tous ces développements récents dont vous avez parlé. Et ma question est liée à la prévision maintenant, puisqu'on arrive à des mesures vraiment infinitésimales, à la prévision aussi bien des tremblements de terre que du volcanisme.
Oui, alors ça, je pense que c'est une question qui sera largement développée dans la conférence de M. Campillo dans 2 jours, si j'ai bien compris. Donc je ne vais pas la développer ici. Dans la pratique, on reste extrêmement, beaucoup de mes collègues restent extrêmement sceptiques sur la prévision proprement dite des séismes, parce que c'est un phénomène extrêmement complexe. Et prévision entendue dans le sens ça va se produire tel jour à telle heure et ça sera telle magnitude, beaucoup de gens pensent qu'en tout cas pour le moment c'est tout à fait impossible. Par contre, nous comprenons de mieux en mieux, si vous voulez, comment s'accumulent les déformations Quel est donc le type de séisme qu'on peut attendre? Quelle est la probabilité, maintenant on est capable de le faire, dans les 10, 20, 30 années, qu'on aura un séisme de tel type à tel endroit? Alors c'est ce genre de choses qu'on est capable de faire. Et puis pour nous, ce qui est très important pour moi aussi, c'est de comprendre le mécanisme lui-même, voyez, de voir comment la Terre fonctionne. Nous en sommes encore au balbutiement dans ce domaine. Mais nous commençons à avoir des modèles quantitatifs qui sont complets, qui intègrent l'ensemble des phénomènes. Nous avons très largement dépassé le stade, vous savez, de ces petits schémas qui étaient faits par les géologues pour expliquer les chaînes de montagnes, et qui m'avaient tellement dégoûté de la géologie que j'étais passé à la géophysique. Quand j'étais étudiant, je disais, je ne comprends rien du tout à cette histoire-là. La chaîne, elle monte d'un seul coup à 4 km, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, nous sommes arrivés, nous comprenons le mécanisme élémentaire.
Allez.
Bonjour monsieur, j'ai eu le malheur d'être en Allemagne en 91 au moment où il y avait eu ce tremblement de terre. Ça va, les Allemands ils sont bien équipés. Bon, j'ai eu le malheur aussi d'être en Grèce au moment où l'année dernière, en septembre, il y a eu le tremblement de terre en Grèce. C'est assez impressionnant, je peux vous dire. Mais j'ai appris aussi que Paris serait situé sur une région sismique.
Oh, alors ça, je ne sais
une
pas.
Petite, qui... Une petite.
Je ne sais pas qui vous l'a appris, mais moi, à Paris, je me sentirais très, très sûr à votre place. C'est vraiment le bassin parisien, vous savez, c'est quelque chose. Il y a vaguement la petite déformation dans l'antiquinal de Bray, mais c'est vraiment extrêmement modeste. Là-dessus, je ne serais pas inquiet du tout.
Monsieur là-haut.
Oui, monsieur, si j'ai bien compris votre explication, j'en ai déduit que les ruptures initiales du continent originel étaient dues à un déséquilibre thermique global de la planète. Est-ce que, si cette explication est bonne, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne risque pas de voir de nouvelles ruptures des plaques continentales parce que l'équilibre global de la Terre est atteint?
L'équilibre global de la Terre n'est jamais atteint, voyez, parce que la Terre est en régime quasiment turbulent à l'intérieur et produit beaucoup trop de chaleur. On est dans un type de convection qui est tel que c'est vraiment turbulent. Donc ça bouge tout le temps et ça se réajuste tout le temps. Depuis, on pense qu'il y a eu au minimum 3 Pangées. Vous voyez, 3 fois, tous les continents se sont rassemblés, puis se sont écartés. Et c'est lorsque tous les continents se rassemblent que vous vous trouvez dans une situation qui ne peut pas se prolonger très longtemps, à moins que le continent lui-même se déplace très vite à la surface de la Terre. Parce que s'il reste stationnaire au-dessus d'une partie de la Terre, son rôle de couvercle thermique va faire monter la chaleur et c'est là qu'il va avoir tendance à se désagréger. Donc en général, c'est le mécanisme auquel on pense. Lorsqu'on dit que vous avez rassemblé tous les continents, et on peut montrer que statistiquement, en fin de compte, vous allez rassembler tous les continents, lorsque vous les avez tous rassemblés, le continent maintenant devient couvercle thermique, il accumule une chaleur excessive et il va falloir créer des déchirures qui vont permettre de ventiler cet excès de chaleur. La dernière fois que ça s'est passé, c'est pour la Pangée, il y a entre 180 et 100 millions d'années, disons.
Monsieur, là, une question.
Justement au sujet de la forme des continents, vous avez rappelé qu'il y a très longtemps déjà, on avait fait un rapprochement entre la forme de l'Afrique, d'une part, et la forme de l'Amérique, d'autre part, enfin, du Sud-Amérique, d'autre part. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si cette forme se conserve, et se conserve très longtemps.
La forme se conserve tant qu'il ne va pas y avoir de déformation. De part et d'autre de l'Atlantique, par exemple, c'est clair que quand on réajuste les bords continentaux, on s'aperçoit que le réajustement est très bon à 50 km près. Vous voyez, parce que bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent, il y a de la sédimentation, mais c'est très bon. Vous pouvez le faire avec l'Australie, etc. Tous ces réajustements de la Pangée marchent très bien tant qu'il n'y a pas eu déformation. Il est évident que si vous vous mettez dans une région où il y a une grande fosse de subduction ou bien un rapprochement entre les deux masses continentales, vous ne pouvez pas. Je donne un exemple. Dans l'océan Indien à l'heure actuelle, vous avez au sud de l'Inde une grande zone de déformation océanique qui fait 1000 km par 1000 km. même un peu plus, 2000 km par 2000 km, et dans lesquels toute la croûte océanique est progressivement raccourcie. C'est en fait une zone de subduction qui est en train de se préparer, une zone de plongée de surface océanique qui est en train de se préparer au sud de l'Inde, parce que ça devient de plus en plus difficile de rapprocher, de faire entrer l'Inde dans le continent asiatique. Donc en arrière, on crée une nouvelle zone. Dans cette zone, c'est évident que si vous cherchez à faire des réajustements, vous allez avoir un système qui ne fonctionnera pas du tout parce que vous avez une déformation distribuée. Donc dans toute région où la déformation ne se produit pas, oui, vous avez des ensembles rigides que vous pouvez facilement reconstruire. Dès que vous trouvez dans une région qui est en cours de déformation ou qui a été déformée depuis, ce n'est plus possible.
Monsieur là.
Monsieur, vous avez parlé de glissement de l'écorce terrestre, ni création ni destruction, comme par exemple la faille de San Andreas. Je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Ah, c'est extrêmement simple. Voilà mes deux mains. Hein, je fais ça. Vous voyez qu'en faisant ça, je n'écarte pas, je ne rapproche pas, je glisse. Donc c'est deux morceaux de plaque qui glissent l'une contre l'autre. C'est ce qu'on appelle une faille de décrochement. Une faille de décrochement. Dans le cas de San Andreas, c'est la Californie qui monte vers le nord-ouest à la vitesse d'à peu près 3,5 cm à 4 cm par an. Et donc la grande déchirure qui est la faille de San Andreas, qui passe par Los Angeles, San Francisco, etc., est une déchirure qui est due à cette avancée saccadée le long de la faille, mais qui est en fait une avancée continue quand on s'écarte un petit peu. L'ensemble Californie appartenant en fait au Pacifique, si vous voulez, et n'appartenant pas à la plaque Amérique. Un jour, si ça se continue suffisamment longtemps, une centaine de millions d'années, il faut être patient, la Californie sera une île dans les espaces brumeux correspondant aux Aléoutiennes et froids. Voilà.
Une question là-bas, sur le côté.
Alors, monsieur le professeur, vous allez vous poser une question tout à fait éliminée, tout à fait accessoire. C'est sur quelle longueur d'onde les satellites émettent pour envoyer des longueurs d'onde pour lesquelles la mer est transparente et à cause desquelles ils peuvent faire la carte du fond de l'océan?
Ce n'est pas du tout par transparence. Je me suis sans doute mal exprimé tout à l'heure. Ce que font les satellites, c'est qu'ils font ils envoient un rayon qui va rebondir, si vous voulez, être réfléchi par la surface de la mer et qui revient. Donc vous mesurez la distance entre le satellite et la surface de la mer. Bon. Et en faisant ça...
La carte, comment on l'a alors? La carte, je vais vous montrer.
Voilà, donc ce que vous faites, c'est une carte de la surface de la mer. Mais la carte de la surface de la mer est influencée à cause de la pesanteur par les masses qui sont au fond des océans. Ces masses, si par exemple vous avez un gros volcan au fond des océans, il va produire à la surface de la mer une petite masse d'à peu près 1 mètre, ou 50 cm, ou 10 cm, hein, sur quelques dizaines de kilomètres. Et c'est ça que vous mesurez. Et après, quand vous faites la reconstitution du relief de la mer, dans lequel vous avez éliminé l'influence des vagues parce que vous avez moyenné, ce que vous avez, c'est une vision de la déformation de la surface de la mer par les masses qui sont au fond de la mer et qui vous restituent de manière remarquable la physiographie du fond des océans. Et en fait, on est capable de restituer cette image de toute petite topographie et de la ramener à une image des profondeurs en faisant un exercice inverse de transformation.
La question la plus importante que vous voulez vous poser, monsieur le professeur, c'est traite plutôt de la géologie que de la tectonique des plaques. Mais forcément, les deux sont en rapport. Alors voilà ma question. Je prends un exemple bien précis, les Préalpes. Dans les Préalpes, vous avez plusieurs fois la succession des terrains secondaires, du Triassique au Crétacé, qui se passent plusieurs fois. Et vous avez dit, à très juste titre d'ailleurs, que la tectonique des plaques, c'est la Révolution. Alors vous savez, avant la Révolution, il y a toujours des toutes sortes de mythes. Alors, comme je suis un vieux bonhomme de la promo Polytechnique 43, ça veut dire qu'étant jeune, j'ai subi le Victor Boulet. Alors, je vous énumère les mythes. C'était géos inclinales, plis couchés et nappes de charriage. Alors maintenant, comment expliquer avec la tectonique des plaques que les sédiments, eux, ne plongent pas dans le manteau comme les plaques elles-mêmes et qu'au contraire, vous avez plusieurs écailles superposées, et je prends un exemple bien précis, le secondaire dans les Préalpes.
Oui, ben c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié. Vous l'avez à l'heure actuelle, par exemple, au large du Japon, au large dans les fosses japonaises. Les sédiments qui sont présents dans ces fosses sont raclés par le continent au-dessus et forment l'équivalent d'une chaîne de montagne qui maintenant fait 100 à 150 km de long, qui peut faire jusqu'à 30 km d'épaisseur et qui sont une série de nappes, les unes au-dessus des autres, que nous avons forées en beaucoup d'endroits. On peut montrer comment ça se produit, comment ça se passe encore à l'heure actuelle. Donc c'est ce type-là de choses. De fait, les sédiments sont des sédiments relativement légers, peu résistants, et la plupart du temps, ils ne plongent pas avec la plaque, ils sont raclés, un peu comme quand vous avez un tapis roulant, et que vous avez eu beaucoup de choses comme des tickets de métro ou des choses comme ça qui sont tombées à la surface, quand vous arrivez au bout du tapis roulant, vous constatez une petite accumulation, s'il n'a pas été nettoyé, de tickets de métro et autre chose, eh bien c'est un peu, les chaînes de montagne, c'est un peu ça. Vous me direz que ces tickets de métro, ça ne ressemble pas à une chaîne, mais par rapport à l'ampleur de ce qu'est la tectonique des plaques, c'est ça.
Nous allons passer à une autre question.
Je pense qu'il faut passer à quelqu'un d'autre.
Oui,
l'essentiel des rifts est sous les océans, donc invisible pour le commun des mortels comme nous, sauf en deux endroits qui sont bien connus, l'Est africain et l'Islande. Y a-t-il d'autres endroits ?
Oui, en fait, le rift le plus rapide à l'heure actuelle, à la surface de la Terre, c'est le golfe de Corinthe. Le golfe de Corinthe est à l'heure actuelle en ouverture à près d'un centimètre et demi par an. Et c'est une ouverture spectaculaire, très, très récente, qui a commencé il y a 600 000 ans et qui produit... oui, pour la géologie, c'est très récent. 600 000 ans, c'est très récent. Les rifts africains ont commencé quand même il y a au moins 4-5 millions d'années. Vous en avez un autre aussi, le Baïkal. Le Baïkal est lié à un de ces rifts.
Une question là, madame. Allez-y.
Oui, à propos de l'Inde, comment expliquez-vous sa remontée aussi fulgurante vers le nord ?
Alors, on se trouve là devant le problème de la dynamique de la Terre. Quand on regarde l'histoire de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes où les vitesses de déplacement atteignaient jusqu'à 20 à 30 cm par an. À l'heure actuelle, elles ne dépassent guère une dizaine de centimètres par an. L'Inde a atteint des vitesses qui dépassaient un peu 10 ou 12 cm par an. Alors, c'est lié à cette soupe qui boue, à cette convection en dessous. Alors, dans le détail, pourquoi l'Inde en ce moment, c'est très difficile. On peut pas, on n'a pas de modèle d'ensemble dynamique simple. Et je ne peux pas vous répondre là de manière détaillée. Nous entrons dans la période où nous commençons à faire des modèles qui tiennent un peu la route d'un point de vue dynamique et qui peuvent entrer un peu dans les détails. Jusqu'ici, on a fait plutôt des modèles qui sont des modèles explicatifs d'ensemble, mais qui ne vont pas apporter la réponse à telle ou telle région.
Une question tout en haut de l'amphithéâtre, monsieur ou madame, levez-vous. Levez-vous, voilà.
Oui, j'aurais aimé savoir si on avait une idée de ce qu'était la tectonique pour des périodes inférieures à 200 millions d'années. Né, par exemple, est-ce qu'au précambrien, c'était pareil ? Est-ce qu'on avait déjà de l'expansion de la subduction ou est-ce qu'on n'en sait rien du tout ?
Alors, je vous ai dit qu'on connaissait au moins trois périodes de Pangée. Il y a une période qui se situe il y a à peu près... c'était avant 200 millions d'années. Il y a une autre période qui se situe avant le cambrien, vers 600 millions d'années. Et puis, il y a encore une autre période qui se situe vers les 1,8 milliard. Et puis ensuite, vous entrez dans un domaine qui semble assez différent. Donc, la plupart des chercheurs reconnaissent sans difficulté que la tectonique des plaques telle qu'on la connaît aujourd'hui fonctionne depuis 2 milliards d'années. Est-ce qu'elle fonctionnait avant ? Là, les chercheurs sont divisés. Est-ce qu'il y avait un mode différent ? Ce n'est pas très surprenant qu'il y ait eu un mode différent parce que la Terre, c'est une machine thermique, donc elle est basée sur la radioactivité. La radioactivité, elle se dissipe progressivement et la production de chaleur dans la Terre à l'heure actuelle est quand même à peu près 5 ou 6 fois inférieure à ce qu'elle était au début de l'histoire de la Terre. Donc vous avez une activité qui change, qui en principe est de moins en moins grande et ce n'est pas impossible que les premières parties de l'histoire de la Terre aient été assez différentes de la partie actuelle. D'autant plus qu'il a bien fallu fabriquer les continents. Alors là, il y a toute une grande discussion, mais on admet généralement que l'essentiel du volume des continents a été obtenu assez rapidement et qu'après ce qu'on a c'est un renouvellement mais pas d'augmentation du volume des continents.
Monsieur, une question là.
Oui, au début de votre exposé, vous avez mentionné le fait que la polarité du champ magnétique terrestre s'était inversée plusieurs fois. Comment est-ce qu'on explique ces inversions successives ?
Là, il aurait fallu poser la question à M. Lemuel, qui a parlé ici hier. C'est un grand spécialiste de ces questions. On attribue le champ magnétique terrestre à une dynamo qui fonctionne dans le noyau. Vous savez que le noyau, qui est la partie centrale de la Terre, est métallique, constitué principalement de fer, qu'il est en fondu. Et à l'intérieur, il y a des courants de convection assez rapides. Comme c'est un métal, c'est un conducteur. Et si vous avez un courant de convection qui fonctionne à l'intérieur d'un champ magnétique, vous produisez un courant, donc vous reproduisez un champ, etc. C'est le principe de la dynamo. Tout le problème, c'est d'arriver à faire une dynamo qui démarre toute seule. Et on sait maintenant, on a fait un certain nombre de modèles. Monsieur Lemuel est un spécialiste de ce genre de choses. Et donc, on montre que ce genre de dynamo s'auto-inverse. C'est-à-dire qu'il peut passer d'un équilibre à l'autre. La rotation de la Terre joue évidemment un rôle pour le maintenir à peu près dans la direction de l'axe de rotation de la Terre.
Xavier Lepichon, je vous remercie.